Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires.
Bon, on s'y attendait quand même, plus ou moins selon les cas. Mais malgré tout ça, c'est toute une onde de choc qui a été causée par la démission du premier ministre Justin Trudeau. À la traîne dans les sondages à quelques mois des élections générales fédérales, après des remous au sein de son parti qui ont culminé par la démission fracassante de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland. Il y a 4 semaines de ça, il me semble qu'il y a tout un monde qui s'est passé en 4 semaines seulement. Donc, Justin Trudeau démissionne. Pour en discuter, notre segment Transcontinent Queer spécial. Alors, nous recevons Dan Robichaud, qui est animateur de radio et activiste à Clare, en Nouvelle-Écosse. Ils ne sont pas encore avec nous, mais on attend Arnaud Baudry, directeur général de Franco-Queer à Toronto, et Rose-Eva Fork-Jenkins du comité Franco-Queer de l'Ouest à Edmonton, et aussi ici en studio, Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence à Montréal. Salut Patrick.
Bonjour Denis Martin.
Salut à toi Dan, qui est là en onde.
Oui, je suis là, salut.
Alors, je vous demande rapidement vos réactions à cette démission.
Bien, comme tu le mentionnais, c'était quelque chose qu'on s'attendait c'est sûr que c'est pas évident pour un homme politique de dire « j'ai fait le tour du jardin ». C'est fait maintenant.
Ouais, puis il voulait son 9e round avec, pour reprendre une analogie de boxe, parce que Justin Trudeau aime la boxe, mais il voulait son 9e round avec son opposant, Pierre Poilievre du Parti conservateur. De ton côté, Dan?
Je pense qu'on s'y attendait que ça venait. C'est clair que sous son gouvernement, il y a eu des bonnes avancées pour les droits de personnes queer au Canada, mais je pense qu'il s'installe une angoisse sur où est-ce qu'on s'en va par après.
Moi, je vais vous faire entendre un petit extrait. On y va.
Pour la censure du gouvernement et les tentatives successives visant à vous empêcher de bâtir vos communautés, pour vous avoir refusé l'égalité et vous avoir forcé à lutter constamment pour cette égalité, et ce, souvent à un coût élevé, pour vous avoir forcé à vivre à l'écart, pour vous avoir rendu invisible et vous avoir humilié, nous sommes profondément désolés. Nous avions tort. We were wrong. We are sorry. And we will never let this happen again. Merci, monsieur.
Bon, ben en 2017, avec cette déclaration, Trudeau s'est placé dans la position d'allié pour les communautés queer. L'a-t-il vraiment été, Patrick?
Bien, ce discours qu'on a partagé il y a quelques secondes, c'est un discours, j'étais à Ottawa et je crois qu'il y avait énormément d'émotions parmi les gens qui l'écoutaient. C'était effectivement les excuses aux personnes qui avaient été purgé, comme on dit malheureusement, de la fonction publique, de la GRC, de l'armée. Mais c'était aussi un message à toute la communauté LGBT qui a subi aussi l'ostracisation dans les différents milieux de travail. Donc, d'entendre qu'un chef premier ministre fait ces excuses-là, c'était un message aussi qui s'adressait à toutes les personnes qui avaient subi cette discrimination-là et tout ce qui venait avec. Là.
De ton côté, Dan, comment tu as réagi à ces excuses-là? Parce que c'était un moment historique hein, au Canada.
Ben, c'est un moment historique. On parle de éponger tout un dossier criminel de genre. Puis je pense que ça a montré que le gouvernement était ouvert. Et c'est, C'est ça qui a mené peut-être ou probablement au plan d'action en 2022, le plan d'action fédéral.
D'accord.
Par contre, ils sont quand même fait critiquer pour être insuffisants dans leurs mesures, mais l'un a mené à l'autre, puis je pense que ça a aidé certainement.
J'aimerais ça donner la parole à nos correspondants en Ontario et puis dans l'Ouest. Je vois que Roséva, t'as allumé ton micro. Alors, c'est quoi pour toi? On vient d'entendre les excuses de Justin Trudeau en 2017. Comment ça a été reçu en Alberta?
Peux-tu clarifier quel
Alors, on parle
type?
des excuses pour la discrimination pendant plus de 40 ans, je pense, de discrimination envers les fonctionnaires et les gens de l'armée. On parle de la purge, entre autres choses. Et Justin avait fait des excuses très publiques là-dessus.
Oui, donc c'est bien qu'il a reconnu qu'il y avait des excuses qui étaient nécessaires. Alors, le fait qu'il s'est, tu sais, il était assez public, comme, le fait qu'il est allé à plusieurs fiertés, c'était quelqu'un que, tu sais, publiquement, qui adressait la communauté LGBTQIA+. Alors, de cette façon-là, on peut reconnaître qu'il a été publiquement en faveur de la communauté.
Je pense que je vais aller à toi, Arnaud. J'aimerais ça te lancer peut-être parce que en Ontario, vous recevez beaucoup d'immigrants. Puis il y a eu beaucoup d'immigrants syriens et d'immigrants ukrainiens qui se sont retrouvés en Ontario, des immigrants queer, en fait des réfugiés queer. Ça aussi, ça a été un geste du gouvernement Trudeau qui a été quand même bien accueilli dans nos communautés.
Ben, clairement, c'est une action qui va au soutien de la communauté LGBTQ+, internationale, spécifiquement les personnes demandeuses d'asile ou les réfugiés qui sont à risque dans leur pays. Donc, c'est envoyer un signal positif en soutien de la communauté LGBT. Mais enfin, c'est même plus qu'un signal, c'est une action concrète, en fait, qui vient au soutien de personnes qui sont à risque de perdre leur vie dans leur pays d'origine.
Alors, j'aimerais tourner peut-être sur un autre point de vue aussi. Tout n'est pas rose ou lavande, on peut dire, dans l'héritage de Justin Trudeau. D'abord, on m'a déjà souligné la contradiction de son gouvernement, qui date de même d'avant lui, ce fait de subventionner, de faire subordonner les droits des communautés de LGBTQIA+ après les privilèges religieux. C'est-à-dire que on peut évoquer la liberté religieuse encore et toujours au Canada pour discriminer envers nos communautés. Et ça n'a toujours pas été réglé. Je te lance la balle, Patrick.
Wow! Ça commence bien l'émission. Effectivement, cette liberté religieuse qui est en opposition dans certains cas à la protection des personnes LGBT, en tout cas des propos qui peuvent parfois être contre les personnes de la communauté. A suscité effectivement beaucoup de friction à savoir pourquoi c'était toujours possible. Donc, c'est sûr que un gouvernement qui essaie d'être au rendez-vous des personnes sous-représentées, et on parle aussi des personnes de différentes origines et de religions, bien, ça l'a amené ça, mais effectivement, pour plusieurs, ça venait. C'est un message contradictoire qui était quelque part là.
Comment vous réagissez à ça au Canada? Peut-être que je vais te lancer la balle, Dan. Ah, mon Dan, t'es pas branché, là, Dan Robichaud,
Ah,
oui.
là, je suis là.
Oui. Comment tu réagis à ça, le fait qu'on subordonne les droits LGBT à la liberté religieuse?
Bien, je pense que c'est un des points que le gouvernement Trudeau a été critiqué dessus. C'est un peu bizarre qu'on continue à prendre l'argument religieux pour subordonner les gens, certains. Malgré que dans certaines églises, c'est l'inverse.
Il y a des églises qui sont pro des droits LGBT.
Des églises ouvertes.
Des églises
Exactement.
ouvertes, oui. Ouais. Je vais faire avancer la conversation, mais si vous avez. On peut revenir si vous voulez, mais je pense que j'enverrai ça à Arnaud. Il y a aussi tout le financement de la lutte contre l'homophobie. Ça relève des provinces, mais ça relève aussi du fédéral. Il y a eu beaucoup, beaucoup de paroles. Est-ce qu'il y a eu de l'action? Parce que moi, je n'ai pas vu de bureau de lutte à l'homophobie au fédéral, Il y a un bureau à la lutte contre l'islamophobie.
Il y a un secrétariat, par contre.
Oui. Est-ce que ce secrétariat-là a des pouvoirs? Est-ce qu'il fait quelque chose?
Mais la question était à notre collègue,
oui,
mais,
Arnaud,
mais
oui.
Juste mentionner qu'effectivement, le secrétariat anime des rencontres avec plusieurs organismes canadiens pour valider leur plan d'action.
Arnaud, oui.
Mais à ma connaissance, il n'a pas de pouvoir contraignant sur aucun ministère, mais il est là pour appuyer et il est consulté dans certaines initiatives. Aussi, je pense que ce qui a été fait, c'est le plan d'action LGBTQ+, au niveau fédéral, et là, ça s'est traduit par des engagements en dollars, en soutien aux organisations qui œuvrent sur le terrain dans la défense des droits des personnes, des communautés de LGBTQIA+. Je vais juste revenir aussi sur le point précédent par rapport aux enjeux religieux. Je me demande s'il n'y a pas une confusion, en fait, dans la compréhension de cette subordination, parce que utiliser les arguments religieux pour discriminer des personnes des communautés LGBTQ+, ça reste illégal, ça reste impossible. Ce n'est pas quelque chose qui est appuyé par le gouvernement, à ma connaissance. Mais par contre, clairement, la Charte canadienne des droits et libertés appuie la liberté de conscience. Donc, on peut penser, effectivement, c'est peut-être là d'où vient la confusion, parce que la liberté de conscience est soutenue par la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui veut dire qu'on peut penser ce qu'on veut de ce qu'on veut, mais là où il y a une limite, c'est dans les actions. Donc, à partir du moment où l'action devient discriminatoire ou devient homophobe ou transphobe, là, ça devient un problème. Mais tant que ça reste des idées, là, effectivement, c'est la liberté de conscience. N'importe qui peut croire ce qu'elle veut en se basant sur n'importe quel précepte, que ce soit religieux ou autre.
Malheureusement, ça se retrouve quand même dans les manifestations qu'il y a eu contre nos communautés et même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de haine et justement, on justifie ça par la religion. Roséva, toi qui es en Alberta, je sais qu'il y a eu beaucoup de manifestations anti-queer dans les dernières années. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme un problème dans l'héritage de Justin Trudeau?
Oui, ben on voit, il y a un organisme qui s'appelle Gris Montréal, qu'eux autres qui font des sondages quand ils font une présentation pour voir c'est le niveau de tolérance des personnes pour voir être exposées à une personne de LGBTQIA+. Puis ils ont dit qu'ils n'ont pas vu des chiffres. T'sais, les chiffres ont rebaissé de comme qu'on a vu avant, t'sais, les années comme 2000. Là. T'sais, c'est vraiment, on est vraiment retombé à une place où est-ce que il y a un gros problème d'homophobie, de transphobie. Alors, est-ce que c'est l'héritage de Justin Trudeau? C'est dur à dire. C'est quelque chose qui a multiples facteurs. Mais est-ce que Justin Trudeau a fait assez pour, être contre et dénoncer? Tu sais, on voyait beaucoup de paroles, mais est-ce qu'on voyait des actions toujours qui... en tant que... Oui, le financement, c'est quelque chose qui a été fait. Alors, tu sais, c'est dur à dire.
Je terminerai avec ça parce qu'on vient de parler justement de la haine en ligne. On nous a promis une loi au fédéral pour, un peu comme en France, pour gérer cette haine-là, mais là, ça n'arrivera pas, Patrick. Je t'envoie encore des questions difficiles, mais t'es bon là-dedans.
Mais la haine, c'est le fléau en ce moment en ligne, pas juste envers nos communautés, là, mais quelque part, à un moment donné, il faudra encadrer qu'est-ce qui est possible de faire. Et ce qui me préoccupe, c'est le désengagement des réseaux qui ne filtreront plus plusieurs choses. Et ça va au-delà de nos frontières. Je pense que ce niveau-là est majeur. L'interprétation de la haine envers une personne en particulier, c'est sûr qu'il existe qu'on peut faire des plaintes, là, mais le processus est lourd pour la personne qui est victime, puis souvent par des personnes qui sont des faux profils. Quand c'est des vrais profils, on voit en France qu'il y a des gens qui se font poursuivre par les tribunaux, puis justement, c'est une approche qui peut utiliser au Canada, mais qui pourrait être une matière à réflexion, à voir comment on pourrait aider des personnes qui subissent la haine. dans des processus de au niveau civil, si on ne peut pas y aller au criminel, de dommages à réputation, etc. Là, il faudrait regarder d'autres avenues, compte tenu qu'il n'y aura pas de projet de loi qui va être voté, je crois, d'ici le prochain, les prochains mois.
On ne peut pas compter sur Zuckerberg, il va avoir des vrais hommes maintenant. Depuis qu'il s'entraîne au gym, lui, là, non, sérieux, c'était dans les journaux ce matin.
Bon.
Alors, oui, est-ce que c'est un problème auquel on va devoir... On risque de ne pas s'adresser parce que là, il y a des élections qui s'en viennent aussi. Cette haine en ligne. Dan, je sais que tu en reçois toi aussi. Moi, j'en ai reçu beaucoup, mais bon, j'ai limité qui peut me répondre sur les réseaux sociaux maintenant.
Ben, je pense que pour parler justement du gouvernement de Justin Trudeau qui nous quitte, c'est plutôt la critique que c'est pas que l'action n'a pas été prise, mais que la ressource a été insuffisante.
Ouais.
Puis je crois que du côté atlantique du Canada, il faut mentionner aussi qu'il y a le sénateur indépendant René Cormier, un Acadien du Nouveau-Brunswick, qui lui lutte et bat et fait des discours et éduque beaucoup de la population et des gens à Ottawa sur les personnes queer et transgenres non-binaires.
Il nous reste rapidement une minute. Je vais donner 30 secondes chacun, Roséva.
Oui, je pense que c'est compliqué. C'est du bien, du mal, mais ce qu'on a peur, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Alors, tu sais, on espère vraiment que c'est pas Poilievre qui rentre.
Arnaud?
Il y a des gros enjeux, des problèmes de désinformation et de mésinformation, mais je pense que essayer de contraindre la liberté d'expression, en fait, ça risque d'aller dans le sens contraire de nos intérêts. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est plutôt favoriser les échanges. Donc pour pouvoir répondre à la désinformation et à la mésinformation, il faut pouvoir l'écouter pour pouvoir recevoir ces fausses informations et pouvoir y répondre avec de la vraie information et des informations basées sur les faits.
Ah, vous êtes discipliné, on arrive justement à temps. Alors merci Dan Robichaud à Clare, à Nouvelle-Écosse. Merci Arnaud Baudry, directeur général de Franco-Queer à Toronto. Roséva Fork-Jenkins du comité Franco-Queer de l'Ouest. Et Patrick Desmarais, c'est clair que tu vas revenir parce qu'on va parler beaucoup de la succession de Justin Trudeau.
Ça fait plaisir.